La jeune Anne est née en 1866, juste un an après la guerre civile américaine. Sa mère est morte dans sa jeunesse, son père était alcoolique, les enfants ont été élevés par d'autres parents. Et puis, Anne et son frère ont été mis dans la maison des pauvres dans le Massachusetts. Et à cette époque-là, après la guerre civile, ces maisons dans les grandes villes étaient organisées pour s'occuper des orphelins et des accros, des mères non mariées, et les enfants étaient mis là-dedans. Parce qu'elle était presque complètement aveugle, on lui a permis d'aller à l'école pour les aveugles à l'âge de 14 ans, l'école Perkins. Mais après 6 ans d'avoir été à cette maison, Anne est devenue vraiment un étudiant hors pair. Elle a eu une chirurgie sur un œil, donc elle était partiellement aveugle, mais elle s'est montrée exceptionnelle comme étudiant. Le responsable de l'école pensait qu'elle serait magnifique comme prof. À l'âge de 20 ans, elle a eu l'occasion d'être gouvernante pour une famille à Tuscumbia, en Alabama, la maison de M. Arthur Keller. Et, bien entendu, elle était embauchée pour être la gouvernante pour leur fille de 6 ans. Hélène Keller était un enfant vraiment rude, difficile, parce que ses parents l'ont aimée. Elle était une belle petite fille, mais ne pouvait pas communiquer avec elle. Elle était sourde et aveugle. Si nous pouvons voir et entendre et parler, je ne peux pas imaginer comment ça serait. Mais elle était vraiment difficile, cet enfant, turbulent. Et le travail de Anne avec Hélène, ce qu'il voulait faire, surtout ce qu'elle voulait faire, c'est enseigner les signes. Mais le langage des sourds manuels, c'est qu'on doit pousser ses doigts dans la paume de l'autre, parce qu'ils sont incapables de le voir. Et ça a fait des semaines, il a pris des semaines avant de pouvoir faire comprendre l'enfant. Mais finalement, après bien des difficultés, elle a saisi qu'elle était en train d'identifier des choses qui étaient autour d'elle. Et quand cela est arrivé, elle s'est saisie de cet enseignement de Anne. À travers les ans, Hélène Keller est allée à l'école de Perkins également, et Anne Sullivan a continué de l'accompagner. Hélène Keller est devenue très connue à cause de son progrès exceptionnel. Elle soulignait les besoins pour les aveugles dans les écoles. Elle a reçu son diplôme de l'université de Radcliffe, cum laude. Mais Annie Sullivan était avec elle à chaque moment. Elle interprétait pendant chaque cours pendant 4 ans d'université. Avec le temps, les deux femmes sont devenues très connues. Une personne qui a appris à les connaître et qui les apprécie beaucoup, c'était Mark Twain, Samuel Clemens. C'était un auteur américain, un philosophe très connu à la fin des années 1800. Et il pouvait, à travers plusieurs amis, il a financé l'université de Hélène Keller à Radcliffe. Et c'était lui qui a parlé de Anne Sullivan comme la faiseuse de miracles. Et elle était connue comme la faiseuse de miracles. Et il y a plusieurs films qui ont été faits de la vie d'Anne Sullivan quand elle commençait à apprendre Hélène Keller. Et il y avait un film très connu. Quand on pense à ce mot miracle, on pense à quoi quand on pense à un miracle? Un miracle est défini comme ceci, un événement surprenant qui n'est pas explicable par les lois naturelles ou scientifiques et donc considéré comme l'œuvre d'une agence divine. Si nous considérons cette définition, est-ce que ce que Annie Sullivan a fait, est-ce qu'elle a fait un miracle? Moi, je ne peux pas savoir. Je ne sais pas si elle avait de l'aide divine pour ce qu'elle devait faire. Bien que l'histoire de Anne Sullivan et toute sa vie, c'est vraiment une histoire de détermination, d'amour, qui est vraiment exemplaire. On ne voit pas des exemples comme ça fréquemment. C'est très inspirant de connaître cette histoire. Mais de dire qu'il y avait un vrai miracle impliqué, on dirait probablement pas un vrai miracle selon la définition. Et qu'en est-il de Dieu? Quand nous parlons au sujet de miracle, il y a des événements qui nous surprennent et nous disons « Ah, quel miracle !» Qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de son œuvre, de son plan? L'œuvre accomplie par Dieu, est-ce qu'il y a des miracles impliqués? Mais je pense que la réponse est oui. Nous tous, dans l'Église, d'après ce que nous lisons dans les Écritures, il y a beaucoup de miracles qui sont mentionnés dans la parole de Dieu. Le déluge de Noé, la séparation de la mer Rouge, les murs de Jéricho, Élisée, son serviteur, les chars de feu, la veuve avec son pot d'huile, l'eau transformée en vin, Jésus-Christ avec les poissons et les pains, il y a toute une liste. Sans question, c'était, et quand il a ressuscité des morts, Jésus, c'était des miracles. Et là, c'est clair, par définition, c'est un miracle. La plupart des miracles dont nous parlons sont dans le passé. Nous sommes convaincus que tous ces événements ont eu lieu, nous les connaissons, et c'est très clair que c'était des miracles. Mais les Écritures nous disent qu'il y a d'autres événements à venir qui seront des miracles. Et l'un de ces événements, c'est notre compréhension que nous allons être transformés de mortel en immortalité. Depuis que je suis adolescent dans l'Église, ça remonte à quelques années, je peux vous assurer, mais depuis que je suis adolescent dans l'Église et je commençais à comprendre ce fait qui était différent de ce que j'avais appris comme catholique, cela m'a fasciné. 1 Corinthiens chapitre 15, quand nous lisons les paroles de Christ que nous avons lues déjà plusieurs fois, 1 Corinthiens 15 verset 50, en écrivant à l'église de Corinthe, « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Tout ce que Christ avait expliqué, tout ce qu'il avait prêché concernant le royaume de Dieu et sa part dans ce royaume et notre préparation pour le royaume, tout ce qui touche au royaume, et Paul soulignait ici que la chair et le sang, et ça c'est nous maintenant, nous ne pouvons pas hériter ça. Nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu comme des êtres humains. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous avons tous, je pense, spéculé un petit peu comment ça sera ce moment. Peut-être que vous vous êtes posé la question autour de la fête des tabernacles, peut-être, parce que nous avons cela à l'esprit. Les fêtes d'automne dirigent nos regards vers ces événements de la fin de cet âge. Cependant, quand nous spéculons un petit peu à propos de ça, ça va être comment? Peut-être... ce qui m'aide à comprendre ça sur vidéo, c'est quand j'ai commencé à regarder Star Trek, la patrouille du cosmos, il y avait un transporteur qui transportait des gens à travers la distance de manière instantanée. On a vu ça dans des films de science-fiction. Une personne est là, toute en entier, et puis immédiatement, une seconde après, il est sur une autre planète, il est ailleurs. Nous spéculons, on est limité en tant qu'être humain dans notre compréhension. Mais je officie à des funérailles depuis 40 ans et j'ai lu ces paroles immortelles de Paul concernant la résurrection à chaque fois. Et je pense à la réalité de ce qui se passe dans les esprits des membres de la famille du défunt qui pensent, qui croient comme nous, et ils pensent au moment quand ils vont voir leurs êtres chers ressuscités immortels. C'est illustré par la fête des trompettes, le retour de Christ, et c'est un de ces éléments que nous, en tant que peuple de Dieu, nous en rêvons de cet événement. Combien de fois avez-vous pensé à cette idée d'être changé de mortel à immortel? À ce moment, quand Jésus-Christ reviendra. Et pour ceux qui sont morts dans la foi, les individus que nous connaissons, nous pensons que nous anticipons l'avenir. Si nous avons un père, une mère qui est décédé dans la foi ou un conjoint, nous anticipons le plaisir de les revoir au retour de Christ. Et non seulement comme nous les avons connus à la fin de leur vie, mais ressuscités à la vie immortelle, éternelle. Avec le temps, en tant qu'adolescent, j'ai commencé à comprendre que ce changement était le résultat final pour les chrétiens. Mais j'ai commencé à me rendre compte également que ça, c'était le résultat final de devenir immortel. C'était le résultat final d'un autre miracle. Cet autre miracle était un processus qui est représenté par la signification des jours des pains sans levain. Aujourd'hui, alors que nous terminons cette fête, je veux expliquer comment les jours, la fête des pains sans levain symbolise un miracle, un autre miracle permettant cette transformation vers l'immortalité. Dans Lévitique chapitre 23, verset 6, Lévitique 23, verset 6, c'est marqué ce que Dieu a préservé quand il a donné ses instructions à la nation d'Israël. Dans Lévitique 23, verset 6, le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Ces instructions ont été données à Israël qui devait manger des pains sans levain pendant une semaine. Nous savons que nous devons manger des pains sans levain. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Sans question, sans doute, nous devons enlever le levain de nos maisons, de nos grille-pains, de nos aspirateurs. Nous devons enlever le levain de chez nous. Dans les semaines avant la Pâque, c'est ce que nous faisons. Nous nous concentrons à cela. Mais ce n'est pas la fête des maisons sans levain. Ce n'est pas la fête des maisons sans levain, c'est la fête des pains sans levain. Et nous devons comprendre la distinction, surtout en terminant cette période de 7 jours. Pendant la fête, ce que nous avons mangé était sans levain. Et il y a une raison à cela. Nous avons préparé des friandises sans levain. Et il semble que chaque fois que nous nous réunissons, pas fréquent cette semaine, mais parfois nous étions ensemble ici au bureau pour les web-émissions, on discutait de nos mets préférés qui sont sans levain. Et je pense que je mange plus de pain pendant la semaine de la fête des pains sans levain parce qu'on se concentre à faire des choses qui sont délicieuses. Nous voulons ajouter de la joie à ces fêtes. Mais considérons comment le fait de manger du pain sans levain symbolise encore cet autre miracle. Celui de Dieu qui accomplit son plan. Je reviens à 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je voudrais souligner un aspect de ce que nous avons lu il y a un instant. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Je pourrais élaborer quel est ce mystère. Le mystère concernait le rôle de Jésus-Christ, mais il y a d'autres aspects au message de l'Évangile que Christ a enseigné que les Juifs n'ont pas compris pleinement. Et Paul, étant juif, étant un juif bien éduqué, il savait que ce qu'il avait appris de Jésus-Christ à travers ces 3 ans était vraiment fascinant. Et ce qu'il explique ici, en 1 Corinthiens 15, c'est quelque chose que Jésus lui avait révélé. Il n'y a pas un autre endroit dans les Écritures où nous avons tant de détails que ce que nous avons ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, les détails qui est donné. Mais il dit, voici je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Il parle de l'Église, nous n'allons pas tous mourir, certains seront vivants dans l'Église au moment du retour de Christ. Nous serons tous changés. Verset 52, « En un instant, en un clin d'œil, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. » En un clin d'œil, qu'est-ce que c'est? Cela se passe à quelle vitesse, un clin d'œil? La plupart des commentaires vont dire que c'est une référence à la vitesse de... C'est la vitesse, quand on parle d'un clin d'œil, c'est une question de vitesse. J'ai fait quelques recherches. Un clin d'œil, c'est une action naturelle répétée de la paupière pour nettoyer et garder l'œil humide. Une personne clignote au moins entre 15 à 20 fois par minute. Ça, c'est 28 800 clignotements par jour. Clin d'œil. Ça fait 10 millions par an, plus de 10 millions par an. Et il faut moins d'une demi-seconde. Un scintillement qui reflète une particule de lumière que nous avons observée, qui a voyagé à, si vous connaissez la physique, aux environs de 300 000 km par seconde. Un petit rayon de lumière pénètre dans l'œil, ça prend un milliardième de seconde, ce scintillement. Un clin d'œil, c'est très rapide. On serait tous d'accord. De changement de mortel à immortel aura lieu de manière instantanée, pour ainsi dire. Ça, c'est la partie rapide et la partie facile du processus, parce que ça ne dépend pas de nous, c'est Dieu le fait, et la volonté de Dieu s'accomplit immédiatement. Mais ça, c'est la partie rapide de notre développement pour entrer dans la famille divine. Et nous comprenons que le plan entier de Dieu a un résultat de base recherché. Il cherche dans la vie de nous tous qui sommes appelés à tirer à son Fils maintenant. Il y a beaucoup d'aspects à ce résultat, mais ce résultat dont nous lisons dans Hébreux chapitre 2, c'est conduire à la gloire beaucoup de fils. Il est en train de développer sa famille. Et nous savons que cela se passe à travers Jésus-Christ, qui est appelé dans 1 Corinthiens le premier-né d'entre beaucoup de frères. Ça, c'est le résultat que Dieu recherche. Ça, c'est le résultat de la fin que Dieu recherche. Mais c'est important pour nous de savoir, et on nous a rappelé ceci pendant la Pâque et la fête des pains sans levain, que tout cela commence, ce plan, avec la reconnaissance individuelle, la reconnaissance que si nous étions laissés à nous-mêmes, nous autres êtres humains, nous sommes seulement de la chair, défectueux, charnels, égoïstes, destinés à la mort et de retourner à la poussière. Si ce n'était que nous, voilà notre état. Et à un moment donné, dans notre vie, nous en sommes venus à comprendre cela, nous l'avons saisi quand Dieu nous appelait. Et il y a un besoin, nous avons besoin d'un sauveur. Celui qui pourrait payer l'amende de nos échecs, nos péchés. Et comme M. Franks a mentionné, il y a 8 jours seulement, nous avons observé la Pâque. Et ça, c'est le fondement sur lequel le plan de Dieu de salut est basé. Le repentir fait partie de cela. Le repentir, c'est la compréhension profonde à laquelle nous devons parvenir pour commencer ce processus de changement. Quand nous nous sommes repentis. Et nous savons que, comme résultat, on devait avoir la foi vivante dans le sacrifice de Christ pour nous et de croire que sa mort a vraiment payé l'amende de nos péchés. Si nous n'avons pas cette compréhension, alors notre baptême n'est pas valide, n'est pas valable, n'a pas été valable. Mais nous avons cette croyance, nous sommes convaincus. Se repentir est un terme biblique qui veut dire sortir le péché de nos vies. Quand je me préparais au baptême, le ministre n'a pas dit, Doug, tu dois sortir le péché de ta vie. Mais il a utilisé le mot repentir pour parler de se retourner et partir dans une autre direction. Ce sont des synonymes. Le péché n'est pas littéralement comme des beignets coincés dans le siège arrière de la voiture. Le péché, c'est notre façon de penser, nos habitudes. Et d'en venir à voir clairement que nous avons tort. Et nous voyons ce lien dans Hébreux chapitre 9, verset 15. Nous avons lu un passage de Hébreux chapitre 9 pendant la Pâque, à cause de ce lien que nous faisons entre le sacrifice de Christ et la vie éternelle. Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue, une question de Jésus-Christ, sa mort, et le sabbat, M. Kahlo a parlé de la résurrection de Jésus-Christ, et le lien à ce dont nous parlons aujourd'hui. Il est le médiateur de nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. L'héritage éternel qui leur a été promis. Et une partie de cela, c'est la vie éternelle pour ceux qui reçoivent cette promesse. La fête des pains sans levain, en surface, ça peut sembler être un acte simple de manger une sorte de pain. Notre façon de l'observer, si quelqu'un ne regardait de l'extérieur, il voit que ce sont des gestes simples, on sort le levain et on mange des pains sans levain. Mais la signification plus profonde de ce pain est vraiment étonnante. La Pâque et la fête des pains sans levain révèlent le point de départ d'un processus qui nous permet de devenir membres de la famille divine. C'est essentiel à tout ce processus. Je ne veux pas dire que c'est facile de changer un être humain en un être spirituel. Dieu est capable de faire cela. Ça, c'est la partie rapide. Ça, c'est une décision que Dieu prend et qu'il prendra à l'égard de chaque individu qui est impliqué. Changer la chair en esprit. Ça va se passer très rapidement, un clin d'œil. En un clin d'œil. C'est rapide. Ça n'est pas un long processus. Il ne va pas nous faire évoluer lentement de mortel à immortel. On va passer par le transporteur et dans 2 semaines, on sera immortel. Non, c'est instantané. Mais la partie difficile prend du temps et de l'expérience. Et c'est ça qui est illustré par l'acte de manger du pain sans levain. Manger du pain, ça semble un geste très simple. On le fait depuis toute la semaine. On a beaucoup mangé de pain sans levain cette semaine. Je voudrais parler un petit peu de nourriture spirituelle pendant quelques minutes. La nourriture spirituelle est un concept que nous devons garder à l'esprit. Dans les écrits de Paul, il a parlé dans 1 Corinthiens chapitre 3 et en Hébreux 5, je vais simplement vous donner quelques survols, vous allez connaître ces. Paul parle de niveau de nourriture spirituelle. On passe du lait à la viande. Nous connaissons ça. Il faisait une distinction entre un niveau de compréhension et la nourriture spirituelle dont on est capable de digérer. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. L'apôtre Paul parle des anciens Israélites, et comme ils sont passés à travers la mer, c'est un type du baptême. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, et buvaient un rocher qui les suivait, ce rocher était Christ. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens 5, nous savons que c'était mentionné le premier jour saint. L'apôtre Paul faisait de son mieux pour toucher cette assemblée, pour les aider à se réveiller, parce qu'ils dormaient spirituellement. Nous ne connaissons pas l'arrière-plan de la vie de chaque personne qui était là, mais on n'a pas besoin de beaucoup lire dans 1 Corinthiens avant de se rendre compte que leur passé n'était pas les meilleurs, le plus propre. Regardons ce qu'il dit au verset 8 de 1 Corinthiens 5. « Célébrons donc la fête. » Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Il fait une différence, une distinction entre 2 sortes de levain. Le vieux levain, c'est-à-dire avec un levain de malice et de méchanceté, ça c'est la partie charnelle, humaine, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et cela représente Christ, ce pain sans levain. Dans Jean chapitre 17, verset 17, il a dit « Ta parole est la vérité ». Et maintenant, je vais prendre Jean chapitre 6, parce que ça, c'est vraiment la réponse ultime de ce pain spirituel. Ces paroles de Jésus-Christ sont très importantes à comprendre, surtout quand nous comprenons ce que représente le fait de manger le pain sans levain. Pourquoi est-ce qu'on parle ça à la fin de la fête? Pourquoi ne pas en parler le premier jour de la fête? Il y a beaucoup d'aspects Et beaucoup de leçons que nous pouvons retirer de la fête des pains sans levain. Nous en avons entendu deux messages excellents dans la dernière semaine à propos de cela. Mais j'espère que vous allez voir aujourd'hui, si nous allons parler de cet aspect de la signification de la fête des pains sans levain, c'est plus indiqué le dernier jour de la fête que le premier. Nous voyons dans Jean chapitre 6 quelque chose de, une énoncé fascinante. Plutôt, dans ce chapitre, c'est un exemple où Jésus a nourri 5000 personnes, miraculeusement. Et les gens étaient fascinés par cela. Ses disciples étaient fascinés par ce miracle. Ils ont compris que c'était un miracle. Et quand la question a été posée, on a quelques pains, quelques poissons. Ça ne va pas suffire pour 5000 personnes. Jésus a dit, ramenez-les ici, et c'est ce qu'ils ont fait. Certaines personnes étaient au courant que ça avait été un événement miraculeux, au-delà des disciples même. Et puis, dans Jean chapitre 6, verset 27, ils voyaient ce que les gens pensaient. Ils comprenaient ce qu'ils avaient dans le cœur. Ils regardaient ce miracle-là, ils considéraient le miracle des pains et des poissons. Et il a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, il y a un pain maintenant, une nourriture ici qui va durer éternellement, et que le Fils d'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il parle de pain qui dure, non pas un pain qui périt. Il révèle autre chose, plus que la nourriture physique. Et puis, au verset 31, il introduit une autre conception. Ça serait un bon titre pour un pain, n'est-ce pas, si vous mettez ça sur l'emballage, vrai pain. Mais il ne parle pas du vrai pain physique. Verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Ce n'était pas Moïse qui a donné le pain, c'était le Père qui l'a fait. Maintenant, mon Père va vous donner le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Christ se réfère au pain qui vient de Dieu, qui donne la vie. Quelle a été leur réponse? Probablement la même réponse que n'importe quel autre être humain donnerait. Et ils ont dit, verset 34, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Donne-moi plusieurs pains comme ça. Si vraiment tout ce qu'il faut faire, c'est manger ce pain, on va recevoir la vie éternelle, donne-nous ce pain. Qui ne voudrait pas un tel aliment? » Quand on pense au sujet de la nourriture et la vie, nous savons que nous, en tant qu'êtres humains, nous aimons manger. La plupart des gens aiment manger. Et nous mangeons parce que nous en avons besoin. J'ai cherché sur Internet « manger pour vivre éternellement » pour voir ce qui serait les résultats. Il y avait plusieurs sites qui étaient mais la plupart des réponses que j'ai reçues toucher à des aliments qui sont utiles pour une meilleure santé. Aliments à manger pour vivre éternellement, flocons d'avoine, des noix, le thé vert, le gingembre, betterave, avocat, amande, poivron. Nous comprenons qu'il n'y a pas vraiment de nourriture qui nous fera vivre éternellement. Mais l'article a dit quelque chose d'intéressant qui a du sens. Voilà ce que cet article a dit. Manger ces aliments de temps en temps n'améliorera pas réellement votre santé. Si vous mangez le malbouffe et puis de temps en temps vous mangez un peu d'avocat ou des flocons d'avoine, si vous le faites de temps en temps, ça ne va pas vous aider beaucoup. Cependant, si vous les incluez dans votre alimentation quotidienne et vous les mangez régulièrement mais modérément, vous allez en profiter pleinement. Intéressant comme principe. La foule a dit à Jésus, « Donne-nous toujours ce pain. » Et la réponse de Jésus, au verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. » Remarquons qu'il a dit « celui qui vient à moi ». Il y a une action nécessaire. On doit consommer ce pain. Il y a une action, ce n'est pas simplement le fait d'entendre. Verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est très encourageant. « Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et ça, c'est une autre leçon importante. Jésus n'est pas venu subir tout ce qu'il a subi pour se faire plaisir. Il l'a fait parce que c'était la volonté du Père. Et le Père a un but principal pour ceux qu'il a créés à son image, c'est qu'il puisse entrer dans sa famille. C'est pas quelque chose qui... Un aspect a lieu dans un clin d'œil, mais d'autres aspects, non. Verset 39. « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que le quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » La volonté du Père, le but ultime de Dieu, c'est de donner la vie éternelle à tous ceux qui l'appellent et ceux qui répondent à cet appel. Et je veux répéter cela dans le contexte de ce que Christ partageait avec ses disciples à propos de lui-même. Il était le pain de vie et les Juifs étaient critiques de Jésus-Christ. Verset 41, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel » et ils disent « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? » On sait mieux que ça. Ils pensaient qu'ils savaient mieux. Comment cet homme, ce simple homme, pourrait venir du ciel? Verset 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Et au verset 44, il dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. » Le Père est impliqué dans ce processus, et il décide qui il va attirer. Et Jésus révèle ce rôle du Père. Et seulement ceux qui l'appellent auront accès à ce pain. Verset 47. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, à la vie éternelle. » Verset 48, il dit, « Je suis le pain de vie. » Je suis le pain de vie. Christ révèle qu'il est le pain. Il est la nourriture, pour ainsi dire, qui nous permet d'hériter la vie éternelle. Et comment en est-il ainsi? Verset 49, « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » Il établit le contexte ici. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Cette manne est venue de Dieu le Père, mais ils sont morts. Ce pain qui descend du ciel, Christ, afin que celui qui en mange ne meure point. Christ est le pain qui permettra aux autres de ne pas mourir. Verset 51, il dit, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ils le prenaient littéralement. Ils répondaient comme s'ils prenaient ces mots littéralement. Jésus leur dit, verset 53, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Nous lisons ces paroles le soir de la Pâque, parce que Christ faisait référence à cette commémoration de sa mort, qui était encore future à ce moment-là. C'est par ce processus que nous confirmons notre engagement et notre foi dans ce qu'il a fait pour nous. Et c'est ce qu'il dit ici. Mais pour ces Juifs qui étaient là, la majorité des gens qui écoutaient à ce moment-là, ils n'ont pas compris. Je vais faire un commentaire à ce moment-ci. Il y a des années, et cela s'est produit plusieurs fois, mais je me souviens au moins une fois, j'étais pasteur dans une région et un individu, un membre de l'Église, à peine parce qu'il ne venait pas aux assemblées, mais il voulait savoir s'il pouvait venir pour la Pâque. J'ai dit, la porte est ouverte, mais J'ai engagé une conversation avec lui. Il ne pensait pas que c'était très utile de venir à l'Assemblée pendant le jour. Pas pour des motifs de santé ou autre, mais ils ont dit, je sais, monsieur a dit, moi je sais ce qui est marqué dans Jean 6, si je ne mange pas ce pain et si je ne bois pas ce vin, je n'aurai pas la vie éternelle. Comme si le fait de manger ce pain était un billet d'entrée pour le royaume de Dieu. Clairement, le peuple de Dieu doit participer au symbole de la Pâque, mais c'est plus profond que cela. Verset 56, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Ces gens sont convertis. « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Il commence à définir ce que ça veut dire de manger ce pain venu du ciel. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est clair, par notre compréhension du plan de Dieu, que Dieu a désigné Jésus-Christ pour être le responsable de notre salut. Il a déjà donné sa vie et payé l'amende pour nos péchés. Il est largement responsable parce que il a dû vivre une vie parfaite, comme Dieu dans la chair, et puis il a dû volontairement donner sa vie pour sauver ceux qui sont coupables de péché. Mais une fois que cette amende est payée, alors là, la responsabilité tombe sur nous. Il a accepté sa responsabilité, et à la fin de sa vie, c'est pour cela, juste avant de mourir, et 3 jours après, il était ressuscité, mais sa part était finie. C'était une partie très difficile, ignoble, que nous commémorons chaque année au moment de la Pâque. Mais là, ça incombe sur nous maintenant de dépenser nos énergies pour changer nos vies, afin qu'elles présentent les attributs de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, manger ce pain? Le savez-vous? Êtes-vous sûr? L'avez-vous fait? Est-ce que vous le ferez? Qu'est-ce qui se passe quand nous mangeons de la nourriture? On va devenir un peu scientifique pendant un instant. Je ne suis pas scientifique, mais nous comprenons ce qui se passe quand nous mangerons tout à l'heure, probablement ce soir, à la fin du jour. Si vous étudiez ce genre de choses, la digestion humaine, ça commence dans la bouche. Une fois qu'on mâche, on est mâché et on l'avale, tout le reste est involontaire. Le fait de mettre la nourriture dans la bouche et de mâcher, ça c'est volontaire, nous décidons de le faire. Nous pouvons affecter ce qui se passe dans nos intestins, mais on n'a rien à faire pour que ça passe à travers notre système digestif. Intestin, il y a des acides de l'estomac, etc. Ça passe par les intestins, et toutes les qualités nutritives sont absorbées. C'est un processus involontaire, la digestion. C'est ça que nous faisons. Nous comprenons, c'est pas compliqué, notre part dans le processus. On n'a pas besoin de faire des études avancées pour digérer sa nourriture. Mais quand il s'agit de digérer la nourriture spirituelle, ça c'est autre chose. Comment est-ce que cela fonctionne? J'ai déjà entendu des gens mentionner que chaque année, les gens me disent, le pasteur nous a bien nourris, ou après la fête des tabernacles, on a une bonne nourriture spirituelle. Et c'est approprié ce genre de commentaire. C'est quand nous pensons à la nourriture spirituelle, c'est l'équivalent de mettre la nourriture dans la bouche et peut-être mâcher. Quand nous entendons, nous réfléchissons à ce que nous avons entendu dans un message. Mais digérer la nourriture spirituelle, absorber, assimiler la nourriture spirituelle, c'est pas involontaire, c'est volontaire. La différence, c'est pas le simple fait d'entendre ou de lire quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on l'a digéré. Ça ne veut pas dire que nous l'avons assimilé. Ça ne veut pas dire que nous avons tiré toute la valeur spirituelle de ce que nous avons lu. À la différence de la nourriture physique que nous mangeons. Le simple fait de lire la Bible, c'est bien de le lire, mais si nous nous arrêtons à la lire, nous n'allons pas digérer, assimiler. Entendre un bon sermon, ça ne veut pas dire qu'on a digéré et absorbé ce qu'il y a dedans. Lire un bon article n'est pas digérer ses aliments. C'est pas ça seul. Il faut lire la Bible, il faut écouter des sermons, c'est nécessaire. Et lire de bons articles, tout ça c'est nécessaire. Quand les ministres préparent leur message, quelqu'un qui doit donner, que ce soit un sermon, demi-sermon, sermon, sermonnette, parfois on va donner un sermon et on se pose la question, est-ce que les frères ont pris ça à cœur? On se demande après, est-ce qu'ils ont compris ce que je voulais? Est-ce qu'ils ont réfléchi là-dessus? Est-ce que ça les a incités à réfléchir? Est-ce que ça les a stimulés à agir? Je ne pose pas la question à chaque fois que je prêche, mais je ne connais pas un pasteur qui ne s'est pas posé ces questions à un moment donné. Parfois, on pose la question parce qu'on se pose la question, est-ce que je l'ai bien présenté? Ça, c'est, on peut toujours mieux faire là-dessus, nous en sommes conscients. Mais on s'interroge. Et quand j'entends un message, quand je lis la parole de Dieu, je dois me demander moi aussi, est-ce que je ne fais que lire ou est-ce que je digère? Jésus-Christ est la source de notre enseignement, la vérité que nous avons dans l'Église. Nous devons lire et considérer profondément ces paroles. Nous devons désirer voir le besoin de changer. Jean chapitre 6, verset 63 dit, « C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. » Et ensuite il dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Si on nous pose la question en tant que chrétien dans l'Église, quels sont les outils à utiliser pour croître en tant que chrétien? Vous allez dire, probablement vous trouverez des réponses. Nous allons arriver à les outils fondamentaux de l'Église, le jeûne, la prière, l'étude de la Bible, la méditation. Et alors que ce n'est pas un sermon à ce sujet directement, c'est un sermon qui concerne indirectement jeûne, prière, étude de la Bible et méditation. Indirectement. Et ce que je veux dire par là, c'est que, quelle que soit sa façon de regarder et de tourner la chose, une combinaison de ces choses-là, jeûne, prière, étude de la Bible, méditation, ça c'est ce qui est impliqué dans la digestion spirituelle. Si on enlève ça de la vie, et ça va vous affecter. La seule façon de manger ce pain, la seule manière par laquelle manger ce pain va nous faire vivre éternellement, c'est si nous changeons. Si nous croissons, nous devenons autre chose, chose que nous n'étions pas auparavant. Dieu ne m'a pas appelé pour que je reste comme j'étais au moment de mon appel, et il n'a pas fait la même chose pour vous non plus. Et je crois que le peuple de Dieu n'est pas resté comme ils étaient au moment de leur appel. C'est important. C'est important pour nous de considérer ça pendant la fête des pains sans levain. Christ a dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, quand il parlait à Satan, Satan a dit, transforme ces pierres en pain. Il avait jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Difficile d'imaginer ça, 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce que Christ a dit? Jésus répondit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la nourriture. Et au prochain chapitre, le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, il est dit, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Ça, c'est dans les béatitudes qui sont... Toutes ces béatitudes sont importantes, mais cet énoncé-là est très puissant pour comprendre la signification de la fête des pains sans levain. Notons qu'il n'a pas dit « Heureux ceux qui ont faim pour un bon beefsteak et une bière fraîche ». Ce n'est pas ça qu'il a dit. Non. Il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Qui ont faim et soif de la justice. La croissance, la connaissance. Vous pourriez ajouter à cela. Notons ceci. Ce sont les paroles de Jésus-Christ qui contiennent, qui sont vie. Mais la compréhension de ces mots, le fait de les intérioriser son enseignement, c'est ça qui compte. Il y a un miracle de changer un être mortel vers l'immortalité. Le miracle de changement de mortel à l'immortalité, c'est formidable. Nous avons rêvé de ça dans la vie, spéculé comment ça sera. Mais un autre miracle doit avoir lieu d'abord. Dans la prière modèle de Matthieu 6, verset 11, ça fait partie de la prière, verset 11. Je ne vais pas lire toute la prière. Il a dit au verset 11, Matthieu 6, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Comment est-ce qu'on interprète ces mots quand vous considérez votre vie de prière, votre prière? Moi, j'étais élevé, comme c'est le cas, j'étais élevé, ça c'est un rappel de remercier Dieu pour notre pain quotidien. On doit remercier Dieu, louer Dieu pour ce qu'il fait. On doit le faire. Mais c'est un peu plus que ça ici, dans cet énoncé. Il est vrai... Il n'y a pas de doute que Christ se réfère au fait d'être nourri. Dans les pays nantis, on ne s'inquiète pas trop pour son pain quotidien. On ne s'inquiète pas trop. Mais nous avons des frères et sœurs. Nous avons des frères et sœurs qui prient ça tous les jours parce que ce n'est pas sûr qu'ils vont manger. Je pense qu'il y a plus ici dans cette demande dans la prière, c'est plus que la simple nourriture physique dont il parle. Christ savait que nous devons demander à Dieu nos besoins quotidiens. Je sais que nous vivons une époque historique maintenant, sans précédent. Et je veux dire que nous tous dans l'Église, nous essayons de... On essaie de comprendre la vitesse avec laquelle cette pandémie nous est arrivée, un peu partout au monde. Et on se demande où ça va mener. Nous avons des questions qui sont sans réponse pour le moment. Et nous avons fait une référence à cela, plusieurs références à cela dans les dernières semaines. Mais il y a une chose que nous avons tous vue et compris à propos de cette époque, l'époque que nous traversons maintenant, et comment nous, en tant que peuple de Dieu, comment nous devons réagir à cela. Et ça, c'est la différence entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Ce que nous ne savons pas, la liste est plus longue que ce que je vais partager avec vous, nous ne savons pas pendant combien de temps ce virus va encore se propager, et nous ne savons pas quels seront les effets à long terme. S'ils vont pouvoir trouver un vaccin. Nous ne savons pas quels seront les effets sur les économies du monde. Quelles sociétés vont survivre et quelles sociétés ne survivront pas. Nous ne savons pas quels seront l'impact sur la société. Ah, les gens spéculent, beaucoup de spéculations. Mais ce que nous savons sont certaines choses que nous pouvons faire physiquement en tant que peuple de Dieu pour agir de manière responsable vis-à-vis de ce virus. Nous voulons éviter, si nous le pouvons, de l'attraper, d'être... Mais plus important que ce que nos faits et gestes physiques, nous comprenons, plus important que cela, c'est notre compréhension du plan de Dieu. Nous savons qui nous a appelés. Nous avons foi croyance. Nous l'avons confirmé de nouveau le soir de la Pâque. Nous savons que le royaume de Dieu va venir. C'est là. Nous ne savons pas quand, mais nous savons qu'il vient. Et nous savons que ce royaume va être précédé par des moments difficiles. Et nous comprenons certains des éléments, un temps de trouble pour Jacob. Nous savons les promesses de Dieu. Nous savons que Dieu comprend les questions que nous avons. Il est au courant. Mais ce qui est le plus important à Dieu, gardons cela à l'esprit, alors que nous avançons au-delà de la fête des pains sans levain. Nous faisons partie d'une famille spirituelle. À la tête de cette famille est un père qui est parfait. Un père parfait. Être un père, c'est une chose qu'on espère faire, on veut faire, mais on sait qu'on n'est pas... Si on est père physique, on sait qu'on n'est pas parfait. On veut faire de son mieux, même quand on sait que on n'est pas parfait. Mais nous avons un père qui est parfait dans son soin pour nous. Et ce qui est plus important aux yeux de Dieu concernant ses enfants, c'est que nous croissions. Il veut voir de la croissance. Il sait quelles sont nos craintes, nos incertitudes. Il comprend tout cela mieux que nous-mêmes. Mais ce qu'il veut de nous, c'est pour nous de profiter de l'environnement où nous habitons maintenant. Comment est-ce que nous pouvons profiter de l'incertitude et des soucis? Ça nous aide à garder la perspective, à refocaliser. C'est pas tout le monde qui passe à travers cette épidémie, cette pandémie. Il y a certaines familles qui se sont soudées davantage. Il y a de bonnes choses qui arrivent parfois, mais la vaste majorité des gens qui passent à travers ce COVID-19, les résultats ne sont pas bons. Les ventes d'alcool sont en hausse de 55% aux États-Unis. La violence domestique augmente. La pornographie en ligne en haut. On pourrait énumérer toutes sortes de choses. Nous retombons dans nos vices quand nous sommes sous pression. En tant que peuple de Dieu, c'est important pour nous de comprendre que nous devons profiter de chaque occasion qui vient pour la croissance. Dieu est sur son trône. Nous avons la vérité de Dieu et nous devons témoigner l'amour de Dieu les uns pour les autres. Il y a des choses très positives qui peuvent résulter de ce temps d'épreuve et nous devrions en profiter. Dieu veut nous donner toutes les possibilités pour faire partie de sa famille. Dieu n'a jamais oublié cela. Il ne l'oublie jamais. Vers la fin de la vie de Helen Keller, 30 ans après la mort de Anne Sullivan, elle est morte dans sa... Elle avait plus de 80 ans, Helen Keller, à la fin de sa vie. Elle a partagé avec d'autres personnes. Elle a parlé l'impact puissant de le rôle d'Anne Sullivan à lui apprendre à communiquer. Voilà une citation de son livre, L'histoire de ma vie. J'ai l'impression qu'elle, Anne Sullivan, elle, de fait, son être est inséparable du mien. Anne Sullivan est celle qui lui a ouvert le monde externe par des signes dans sa main. Et les traces de pas de ma vie sont dans les traces de pas de sa vie. Ce qui est de mieux en moi est venu d'elle. Il n'y a pas un talent, une inspiration ou de joie en moi qui n'a pas été éveillé par sa touche aimante. L'accomplissement de la vie d'Anne Sullivan et de Helen Keller, la relation, ce qu'elle a permis à Helen Keller, c'est vraiment remarquable. Mais tout cela a eu lieu sans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'était pas impliqué. C'est un testament à la fortitude et la détermination et l'amour de deux êtres humains. C'est à la fin de sa vie, Helen a dit plusieurs fois que son amour et son enseignement a donné un but à sa vie. J'ai regardé le film le miracle en Alabama. Je l'ai regardé de nouveau il y a quelques nuits et ça m'a rappelé de ces faits quand Anne Sullivan aidait Helen Keller, cette petite fille terrible qui avait 6 ans et demi. Mais le fait que quand elle avait 80 ans, avant sa mort, elle a applaudi l'aide que Anne Sullivan lui avait donnée. Elle lui a donné un but dans la vie, une signification à sa vie. Avons-nous signification et but dans nos vies? Évidemment. C'est oui, absolument. Et pourquoi? Moi, je n'ai pas eu de Anne Sullivan dans ma vie. J'ai eu une mère et un père qui étaient formidables. Ils ont beaucoup fait pour m'enseigner, comme vos parents l'ont fait. Mais quand on pense à la signification, notre compréhension de la signification de l'abysse, c'est venu d'où? La destinée que nous anticipons implique un miracle. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi deux défaites de l'Éternel durent 7 jours et les autres fêtes ne durent qu'un jour? Vous vous êtes posé cette question? En réfléchissant à cette question, on ne sait pas pleinement, on n'a pas la réponse absolue. Mais la Pâque commémore un événement, la crucifixion de Christ. Et c'est vraiment une fondation. C'est un fondement. Toutes les autres fêtes sont sans grande signification, sans le sacrifice de Christ. La Pentecôte a eu lieu un jour, un événement particulier, quand l'Esprit de Dieu a été donné à l'Église. En l'an 31, la fête des trompettes préfigure le retour de Christ, qui aura lieu un certain jour. Nous ne savons pas quel est le jour ni l'heure. Les expiations, le fait que Satan soit lié, ça c'est un événement qui aura lieu à un moment précis. Qu'en est-il de la fête des tabernacles et la fête des pains sans levain? La fête des tabernacles, c'est un peu plus facile à comprendre. Ça concerne une longue période de temps, 1000 ans au moins. Alors tu nous donnes toute une semaine pour pouvoir profiter pleinement de cette compréhension et tout ce qui est impliqué. Et nous allons à la fête des tabernacles chaque année et nous en redemandons. Nous demandons encore de la compréhension, de l'inspiration et toutes les nuances et les aspects. Mais la fête des pains sans levain, la fête des pains sans levain, pensons-y. Je voudrais soumettre, je ne suis pas convaincu à 100%, mais je pense que Dieu nous a donné 7 jours de la fête des pains sans levain parce que ça représente notre vie de chrétien. Ça illustre notre vie de chrétien. Nous ne mangeons pas de Jésus-Christ une seule fois. Ce n'était pas un seul événement. Alors que nous terminons la fête des pains sans levain, rappelons-nous de cette étape critique, de croître, d'avoir l'esprit de Jésus-Christ. Et rappelons-nous qu'avec le passage de chaque mois, chaque semaine, chaque jour, nous devons nous efforcer de devenir davantage comme notre frère aîné Jésus-Christ. Et que ce but fait partie de la passion de notre vie. Le miracle instantané de changer nos corps de mortels à immortels, ça c'est une chose fascinante à imaginer et Dieu va le faire au retour de Christ. Mais nous avons un rôle à jouer dans un autre miracle, symbolisé par le fait de manger du pain, d'imbiber les paroles et l'enseignement de Jésus-Christ et de voir changer nos cœurs et nos esprits en l'esprit même de Jésus-Christ.